Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous connaissez l'expression « laisse aller, c'est une valse ». On peut l'entendre comme la formule plaisante d'un renoncement. On va se laisser faire, entraîner sur les pentes du temps, car l'histoire est écrite d'avance. Eh bien non, je pense tout le contraire. Si l'on aime l'histoire, c'est parce qu'elle est l'art de se ménager des surprises. Par ses discordances, ses hoquets, ses syncopes, l'histoire nous happe et nous surprend. Elle est à la fois inexorable et brusque, capable de langueur et d'embarder. Bref, vous l'avez compris, l'histoire se danse comme un tango. Il est beau celui que l'on entend, non ? C'est Thomas Gubitsch qui nous l'a composé pour nous. Et j'avoue que, franchement, on en est assez fiers, parce qu'il donne le ton et le tempo. Tous les dimanches, désormais, il nous accueillera pour cette nouvelle émission sur France Inter, Histoire 2. Histoire de dire et de donner à voir, histoire de s'adresser à nos vies, histoire de ne jamais désespérer du temps qui passe. J'y serai accompagné d'une brigade de 8 sociétaires, rassemblés par une certaine éthique de la lecture et désireux de reprendre confiance dans l'esprit du débat. Chaque semaine, donc, 2 vont se dévouer, et aujourd'hui, c'est Emmanuel Tixier-Duménil et Thierry Sarment, pour accueillir avec moi un invité autour d'un thème et apporter avec eux dans la discussion leur savoir, leurs envies, leurs lectures, leurs passions. Nous nous laisserons guider au gré de l'actualité des livres, des films, des expositions, mais aussi de nos curiosités, parfois dans le tempo de l'actualité, parfois à contre-temps. Mais dans tous les cas, nous tenterons de faire entendre les voix de l'histoire, telle qu'elle se fait, se pense et s'expérimente. Aujourd'hui, le passé cogne à nos tempes. En Afghanistan, l'histoire se rappelle à notre bon souvenir. Avec notre invité, Gilles de Ronsoro, nous allons nous plonger d'emblée au cœur du grand dilemme, posant la seule question qui vaille : que peut l'histoire pour rendre le présent intelligible et partant supportable ?
Je suis le commandant Massoud de la vallée du Panjshir. Depuis 5 ans, les Soviétiques ont envahi notre pays et ont lancé nos offensives contre notre vallée, sans réussir à nous faire accepter la servitude. Récemment, les commandos de l'armée rouge se sont livrés à des atrocités sur nos femmes et nos enfants, les dynamitant, leur arrachant les yeux pour leur fin abandonner la lutte pour la liberté. Nous nous battons pour le seul bien qui nous reste, la liberté. Et nous avons besoin de votre aide. Je fais appel à la conscience universelle, à vos consciences d'hommes et de femmes libres.
Appel du commandant Massoud, 27 décembre 1984. C'était il y a presque 20 ans, jour pour jour, le 9 septembre 2001. Le commandant Massoud mourait assassiné dans un attentat suicide à Darkad, en Afghanistan. Et c'est le prélude à cette histoire qui revient aujourd'hui et qui requiert pareillement ce qu'il appelait la conscience universelle. Gilles de Ronsoro, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez les sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez consacré de nombreux travaux à l'Afghanistan depuis votre premier livre, paru en 2000 chez Cartala, sous le titre « La révolution afghane, des communistes aux talibans ». Et depuis la prise de Kaboul, évidemment, le 15 août de cette année, par les talibans, vous avez été très sollicité par les médias. Dans ce livre qui est paru en janvier 2021, toujours chez Cartala, « Le gouvernement transnational de l'Afghanistan, une si prévisible défaite », vous décrivez avec rigueur ce que vous appelez un probable réalisé, c'est-à-dire le fait que la coalition internationale ne pouvait que perdre la guerre en Afghanistan. Et vous le dites, mais sans vous en enorgueillir, et au contraire, vous écrivez « Je ne suis pas sûr, et c'est un euphémisme, que nous, universitaires ou experts, ayons collectivement été à la hauteur des enjeux. Pourquoi ?»
Pourquoi ? Parce que on avait, après 2001, des éléments factuels, des analyses qui permettaient de penser que tout ce que faisait la coalition allait dans le mauvais sens. Et quand je dis tout, je vois pas une décision qui ait pas été fausse, à contresens, depuis 2001. Et malgré ça, on a eu un aveuglement, une espèce de mirage collectif pendant des années, qui a laissé penser que ça se passait bien en Afghanistan, jusqu'aux alentours de 2008-2009, c'est-à-dire à peu près le premier mandat Obama. Donc, moi, ce qui m'a stupéfié, c'est que tout ce que je pouvais apporter comme terrain, je fais du terrain depuis 88 en Afghanistan, donc je connais un peu le pays, tout ce que je pouvais amener comme élément objectif, tout ça se heurtait à une forme d'illusion et aussi à des logiques bureaucratiques absolument insurmontables.
Et ça vous a mis en colère?
Alors ça m'a mis très en colère, d'où le blocage d'écriture, parce qu'en fait le livre a été écrit essentiellement vers 2014-2015, et il m'a fallu des années en fait pour surmonter la colère, arriver à faire quelque chose qui soit beaucoup plus analytique, d'où des réécritures permanentes, et arriver à quelque chose qui est pas trop passionné et qui présente plutôt une analyse rationnelle de la situation.
Et implacable dans le grand calme, et le calme aussi d'une forme d'autocritique, parce que vous dites on a fait ceci, on a fait cela, mais vous y étiez d'une certaine manière dans la production de ce savoir expert sur l'Afghanistan, dans les think tanks, dans la coalition internationale.
Oui, je crois que j'ai fait beaucoup d'erreurs. D'abord, je n'ai pas compris le mécanisme de l'expertise. Le mécanisme de l'expertise ne repose pas sur votre capacité à dire juste, ça repose sur votre capacité à avoir des contrats et avoir accès à des personnes qui ont du pouvoir. Voilà. Donc, en fait, je suis parti avec le mauvais régime de vérité. Moi, je faisais l'expertise en disant « Regardez, ça va se passer comme ça ». Et ça se passait comme ça, mais les experts qui s'étaient trompés n'étaient pas discrédités, ils avaient toujours des contrats de recherche. Donc, je crois que j'ai complètement raté cet aspect-là. Deuxièmement, je pense que j'ai pas été assez actif auprès des médias. Et puis, troisièmement, peut-être, j'ai un ethos d'universitaire et un sens de l'humour probablement un peu décalé qui a pas aidé. Bon, j'avais tendance à faire des titres un peu provocateurs, simplement pour, voilà, l'OTAN en Afghanistan ou le destin du Titanic. Enfin, je faisais des titres un peu provocateurs et je pense que quelque part, ça a plutôt desservi. Pendant des années, j'ai été considéré un peu comme un uluberlu, un peu à la marge, quoi. Et finalement, les choses se sont stabilisées. J'ai commencé à être écouté, mais trop tard. Voilà.
Le titre de la première partie de votre livre est aussi provocateur, mais il est très efficace. C'est la production de la méconnaissance. En fait, vous décrivez la manière dont s'est constituée par ces savoirs experts une anthropologie imaginaire de l'Afghanistan, comme un pays tribal, profondément et structurellement rétif à l'État, ingouvernable. Et d'une certaine manière, on n'a jamais été aussi loin, à vous lire, dans la construction ou dans la reconstruction d'un savoir orientaliste, finalement, sur l'Afghanistan.
Anti-historique.
Oui.
Profession, je suis plutôt sociologue du politique, mais à l'évidence, il existait sur l'Afghanistan des travaux historiques, des gens qui ont écrit, réfléchi sur qu'est-ce que c'est qu'une tribu, sur le mécanisme de formation de l'État afghan. On sait plein de choses sur l'Afghanistan, d'excellents anthropologues. Bon, je pense aux 100 livres, je pense à Monsouti, je pense à d'autres. Et en fait, curieusement, ce savoir a été gommé, éliminé. On est parti en 2001 sur l'idée d'une table rase et les expériences historiques ont totalement été annulées. D'où la reconstruction totalement extraordinaire d'expliquer que les talibans, c'était un fail state, c'était un état failli. Alors qu'au contraire, les talibans, très rapidement, veulent reconstruire les structures étatiques. C'est un fait, je veux dire, c'était pas quelque chose qui était très ouvert à l'interprétation. Hein. Et malgré ça, toutes les institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI, etc., sont tous partis sur cette hypothèse que les talibans ne pouvaient pas, ne savaient pas gouverner. Or, en fait, si on s'était interrogé là-dessus, on aurait vu qu'ils avaient une façon de gouverner, il fallait apprendre de cette façon de gouverner. Ça, on ne l'a pas fait. Donc, l'anthropologie imaginaire, c'est dans un pays qui est en pleine transformation, où il faudrait des historiens du temps présent, c'est-à-dire voir ce qui bouge, ce qui se transforme, on a appliqué des modes de raisonnement
classificatoires, les tribus,
totalement décalé par rapport à l'état des connaissances aujourd'hui. Hein. On est dans un pays qui s'urbanise à toute allure. Kaboul, aujourd'hui, c'est 5 millions d'habitants. Pratiquement tous les Afghans étaient obligés de bouger à cause de la guerre. Donc l'enracinement en Afghanistan, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui est très évident. Hein. Les gens bougent parce qu'ils ont été bombardés, ils ont été emprisonnés, ils sont partis en exil, revenus. On a l'émergence de nouvelles classes sociales dans les villes. Et malgré ça, on fait une stratégie de contre-insurrection qui est la manipulation tribale, oui. qui a l'air d'être tirée des manuels britanniques du 19e siècle.
Voilà, et donc c'est à ces décalages-là. Ces décalages qui apparaissent aussi à vous lire, le gouvernement transnational de l'Afghanistan, Gilles Doronsoro. Donc on comprend que il y a un État afghan depuis longtemps, que certes la société rurale afghane peut le maintenir à distance, mais que cette présence d'une autorité impériale, parce que c'est de ça dont on va parler au fond aujourd'hui, d'une autorité impériale, c'est la norme depuis des siècles, même si elle est plutôt imposée de l'extérieur. C'est ça le paradoxe d'un local extraverti, comme vous le dites.
Je faisais référence tout à l'heure aux travaux de Pierre et de Micheline sans livre. Il montre bien que dans un village, l'État est en dehors du village. Le bâtiment est pas tout à fait, il est moderne, il est un peu à l'extérieur. Le fonctionnaire est un peu différent. Il parle pas toujours la langue locale, puisque l'Afghanistan est un pays où on parle beaucoup de langues. Donc il y a une extériorité. Mais l'extériorité veut pas dire illégitimité. Parce que quand vous avez à trancher de conflits locaux, par exemple, effectivement, une autorité extérieure, ça marche mieux que quelqu'un qui est effectivement parti au conflit. Donc il y avait déjà cette idée que l'extériorité voulait pas dire l'illégitimité. Puis il y avait une deuxième chose évidente, c'est que les tribus, puisque c'est souvent ça le problème, les tribus étaient plus un acteur politique depuis les années 30 en Afghanistan. Après la révolte de 1929, où là, il y a un caractère tribal assez affirmé, ce qui se construit, c'est une armée moderne, et désormais, les coups d'État se passent à l'intérieur de l'appareil d'État, très classiquement, et non plus parce que des tribus se révoltent.
Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'à vous lire, on comprend qu'au fond, les talibans sont là pour faire cesser la guerre civile. Et qu'ils ont été, en 1994, comme aujourd'hui en 2021, le mouvement national qui, notamment par la question de la justice, qui a été très négligée par la coalition internationale, s'impose comme puissance de médiation. Il y a un livre récent de votre collègue Adam Bachko, La guerre pour le droit, les tribunaux talibans en Afghanistan, qui est paru en 2021 chez CNRS Éditions, qui montre que le système judiciaire mis en place par les talibans depuis une dizaine d'années sert en fait à régler les litiges.
Absolument. 94, l'apparition des talibans, c'est probablement le moment où moi j'ai fait mes terrains les plus fascinants d'Afghanistan. J'ai vu Kandahar, la grande ville du sud, dans un état de chaos totalement exceptionnel en Afghanistan, où les gens fumaient du hashish et autre chose dans la rue, où les jeunes garçons se faisaient enlever par des groupes armés, un état de désordre extraordinaire. Et c'est de là que naissent les talibans. Et les talibans sont populaires dans un premier temps parce qu'ils nettoient le pays de tous ces groupes armés. Et donc, ils ont refait en fait la même chose, c'est la même stratégie après 2001, c'est-à-dire que face à une violence incontrôlée qui est appliquée par la coalition, les talibans représentent le droit, l'arbitrage. Et c'est pour ça que le livre d'Adam Bachko est si important. Parce qu'il va montrer comment concrètement et à partir de quelles sources de légitimité les talibans peuvent en fait imposer progressivement cet ordre social.
Et ça, on ne l'avait pas du tout compris. On avait compris le charisme du commandant Massoud, mais pas celui du mollah Omar qui légitime le recours au droit de la charia.
En fait, c'est complexe, parce que le charisme absolu de Massoud, j'ai un peu voyagé avec Massoud en fait, donc j'ai vu la réaction des populations, c'était véritablement un charisme pratiquement au sens weberien. Ce charisme, en fait, il permettait à la population de contourner l'organisation de Massoud, on s'adresse directement au chef. Du côté de Mollah Omar, que j'ai pas pu rencontrer, c'était le contraire, c'est-à-dire que le charisme réel de Mollah Omar, il faut se rappeler des grandes cérémonies à Kandahar, le manteau du prophète, etc., c'est vraiment un charisme, servait à fonder la loi. La loi, c'est-à-dire la charia, mais la charia de fait interprétée par les oulémas. Donc on a un rapport très complexe au charisme, dans les deux cas, et c'est un rapport absolu différent. Et donc, ce qui est fascinant dans le cas de l'Afghanistan, c'est que les deux hommes qui sont les derniers à combattre, finalement, Massoud d'un côté, Mollah Omar de l'autre, représentent les deux extrêmes du système social. D'un côté, quelqu'un qui est passé par le lycée, l'université, qui parle français, il parlait bien français d'ailleurs.
Ben, on l'a entendu.
Mais en faisant la conversation aussi. Et de l'autre, Mollah Omar, quelqu'un qui n'est pas ouléma, qui n'est pas représentatif des talibans, mais quelqu'un qui est essentiellement un religieux, campagnard, etc. Et ces deux systèmes vont s'affronter à la fin, et évidemment c'est les talibans qui gagnent pour des raisons structurelles.
Après la pause musicale, nous retrouverons notre invité Gilles Doronsoro avec les deux sociétaires du jour, Emmanuel Tixier du Ménil et Thierry Sarment.
Oh, Side to side.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Toujours en compagnie de Gilles de Ronsoreau, nous allons tenter de renverser le cliché orientaliste. L'Afghanistan, tombeau des empires, vraiment ? Mais si c'était l'inverse, si depuis bien longtemps l'Afghanistan était le berceau des empires. C'est l'hypothèse que nous allons tester avec Emmanuel Tixier-Duménil, qui enseigne l'histoire médiévale à l'Université Paris-Nanterre. Bonjour.
Bonjour.
Et Thierry Sarment, archiviste, numismate, historien de l'époque moderne. C'est avec vous qu'on va commencer, parce que qu'est-ce que c'est qu'un historien ? C'est quelqu'un qui regarde derrière les tableaux, ce qu'il y a derrière la photo. On a tous vu la photo des talibans le 15 août à Kaboul, qui investissaient le bureau présidentiel. Alors vous, en plus, vous êtes directeur des collections du Mobilier National. Donc vous avez regardé ce qu'il y a dans ces intérieurs. Et qu'est-ce que vous avez vu derrière les Kalachnikovs sur le bureau ?
Ce qui m'a beaucoup frappé, en dehors du bureau qui était assez kitsch, c'était ce tableau qui était derrière la table présidentielle, un tableau d'histoire qui représentait, de loin on aurait cru un baptême, ce qui était un peu, ça aurait été un peu douteux dans ce contexte. Et puis en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que ça représentait l'investiture du premier, on peut appeler le premier Shah ou le premier roi d'Afghanistan, en 1747, à qui un mollah a mis sur la tête une couronne d'épis de blé.
Pour et c'est l'acte de fondation du royaume afghan.
En tout cas, dans la mythologie nationale, ce serait l'acte de fondation admis. Bon, on verra qu'on peut remonter beaucoup plus loin. Et ce qui m'a frappé, c'est je suppose que c'était un décor voulu par le président sortant, si j'ose dire, mais les talibans n'avaient pas jugé bon d'enlever ce tableau. Donc on peut imaginer qu'ils adhéraient à cette mythologie nationale. Et vous avez parlé tout à l'heure, Gilles de Ronsoreau, de table rase faite par les Américains sur l'histoire, considérer qu'ils arrivaient dans un pays sans histoire. Et cette image, ce tableau, donne à penser qu'au contraire, les différents protagonistes s'inscrivent dans l'histoire. Alors, j'ai pensé à ce livre maintenant ancien de Michael Berry, Le Royaume de l'Insolence, qui, dès 1984, inscrivait l'histoire récente de l'Afghanistan, à l'époque il s'agissait de l'invasion soviétique, dans un passé beaucoup plus lointain, puisqu'il remontait, il décrivait d'ailleurs cette scène de l'investiture de 1747, et il donnait à penser que l'Afghanistan, malgré sa diversité, avait commencé à faire nation.
En 1747, les Afghans en question, ce sont des Pashtuns des montagnes de l'Est, des semi-nomades de foi sunnite et de langue indo-iranienne, qui, d'une certaine manière, fondent l'État. On peut dire ça, Gilles de Ronsoreau ? C'est-à-dire que, quel est le rapport, au fond, des talibans à ce passé national ? En tant que les talibans, on le comprend à vous lire, sont un mouvement national.
Un mouvement nationaliste. Oui. Le problème des talibans avec l'histoire, c'est un peu le problème de toute la nation afghane avec l'histoire. C'est, vous avez deux récits qui tendent à s'affronter. Un récit qui est essentiellement religieux. Et c'est là que les talibans s'inscrivent dans une des traditions afghanes. C'est un récit religieux, mais à la fois souvent nationaliste, pachtoun. Hein. En tout cas, les deux sont compatibles. Et c'est ce qui explique notamment l'absence d'intérêt pour le passé pré-islamique de l'Afghanistan. Hein. Alors, la destruction des Bouddhas de Bamiyan, qui a été, juste raison d'ailleurs, très relayée par les médias, s'inscrit à la fois dans une tradition iconoclaste, dans un refus de ce passé pré-islamique, et aussi très concrètement dans une logique d'affrontement avec la communauté internationale. Mais je pense que plus que le caractère iconoclaste, ce qui est important ici, c'est effectivement que cette période n'était pas vue comme une période afghane. Et puis vous avez une deuxième tradition qui s'inscrit plus aussi dans des revendications, disons, de représentation des ethnies non pachtounes, où là, le récit national tend à se caler sur les grandes histoires impériales. Et voilà, on considère que l'Afghanistan a été, à un moment donné, partie d'empires pré-islamiques éventuellement, et que ça fait partie de l'Afghanistan.
Oui. Voilà. Alors parlons d'empire, justement. Lorsque les Afghans pillent Delhi en 1739, ce qui libère leur force, au fond, c'est la désintégration de l'empire moghol depuis le XVIIIe siècle. Mais l'empire moghol lui-même, l'Inde moghole, il a été créé par le roi de Kaboul, Babur, au XVIe siècle. Et au fond, Babur, c'était par son père le descendant de Tamerlan, par sa mère celui de Genghis Khan. Donc on est dans cette histoire médiévale, Emmanuel Tixier-Dumesnil, où l'Afghanistan, en fait, est le lieu où se relance sans cesse l'histoire islamique de l'Empire.
Oui, tout à fait. Il faut peut-être faire un sort à ce cliché d'une montagne fortifiée à l'écart du monde, à l'écart par sa géographie, au cœur de l'Hindou Kush, séparée du reste du monde et qui serait aussi séparée d'une histoire du monde. Or, c'est exactement l'inverse. Hein. Il suffit de voir qu'on est là presque à la confluence des mondes indiens, chinois, perses, russes, ensuite soviétiques, mais aussi occidentales. Et je pense que quand on voit l'intérêt notamment dans le très très beau musée Guimet, des salles qui sont dédiées à l'art afghan, alors on a traversé avant les salles consacrées à l'art chinois, à l'art japonais, on y voit des merveilles, mais auxquelles on s'attendait en quelque sorte. Et on arrive dans les salles dédiées à l'Afghanistan, et là, il y a tout. Il y a les ivoires indiens, il y a les lacs chinoises, il y a la statuaire grecque. Et on voit précisément cette confluence.
Oui, Nicolas Bouvier, d'ailleurs, l'écrivain et voyageur, disait de ces Bouddhas grecs qu'il sourit à l'impermanence du monde. Et c'est effectivement cette idée de la Bactriane qui est, c'est le cas, Thierry Sarment, d'une certaine manière, pendant très longtemps, un creuset d'empire.
Effectivement, on voit toujours l'Afghanistan comme un coin reculé, et en fait, il diffuse sur les régions les régions voisines. Alors, bon, il y a un autre exemple bien connu, c'est en 1722, les Afghans, qui étaient jusque-là une province soumise à la Perse, envahissent la Perse, conquièrent Ispahan, et c'est un Afghan qui monte sur le trône d'Ispahan, et qui devient Shah de Perse. Donc, c'est une vision très fausse d'imaginer l'Afghanistan comme toujours à l'écart de la grande histoire.
Et aujourd'hui encore, Gilles de Ronsoreau, vous militez pour faire reconnaître une histoire, je dirais, régionale, en fait, de l'Afghanistan, qui est tout sauf enclavée, qui doit être vue depuis la Chine, évidemment, hein, puisque voilà, les Chinois ont depuis peu une route directe, alors il est vrai à 4000 mètres d'altitude, mais avec Kaboul, c'est depuis la Chine, c'est depuis la Turquie, c'est depuis le Pakistan, évidemment, que se voit cette histoire aujourd'hui.
Oui, et aujourd'hui, une des conséquences de la prise de pouvoir par les talibans, c'est de faire basculer l'Afghanistan dans la sphère d'influence pakistanaise, mais au-delà du Pakistan, de la Chine. Puisque vous savez que depuis maintenant une vingtaine d'années, on a un rapprochement de plus en plus étroit entre la Chine et le Pakistan. Et là, on a quelque chose qui est en train de basculer véritablement. Puisque historiquement, il y a une influence persane, bon, ne serait-ce que linguistique, très forte. Et là, véritablement, on a quelque chose qui est en train de se décaler très profondément. Il y a des frontières à la fois culturelles aussi qui sont en train de bouger. La pénétration de la culture indienne par l'intermédiaire de Bollywood, bien sûr, toute la musique indienne. C'est véritablement quelque chose qui a transformer la musique, la culture afghane en profondeur depuis maintenant plusieurs décennies. Ça ne date pas en fait simplement de l'invasion américaine, c'est bien avant. Et on va vers Kaboul, est une ville monde. C'est une ville où vous avez des influences culturelles extraordinairement diverses. Vous avez des écoles américaines, enfin vous aviez des écoles américaines, françaises, mais aussi des écoles du Golfe, enfin en tout cas financées par le Golfe, etc. Donc en fait, on est dans un mélange culturel assez inédit, y compris linguistique à Kaboul.
Tenez, j'ai envie de vous faire écouter quelqu'un, c'est Joseph Kessel en 1969.
Ça a été un coup de foudre. J'ai vu beaucoup de pays et d'aussi beaux. Mais dans l'Afghanistan, il y avait cette beauté physique du pays, la beauté des habitants. Il y avait des habitudes et des coutumes qui datent du Moyen-Âge, les bazars qui sont exactement pareils à ceux qu'a décrit Marco Polo, et aussi ce jeu stupéfiant qui s'appelle le bouskashi, où des centaines de cavaliers merveilleux sur des bêtes admirables combattent pour rapporter à un but qui s'appelle le cercle de justice la dépouille d'un bouc décapité qu'ils s'arrachent les uns aux autres avec des acrobaties prodigieuse. Enfin, tout ça en fait que c'est un pays qui, pour moi, est celui où j'ai été le plus à mon aise et en même temps le plus transporté hors de moi-même.
Se transporter hors de soi-même, c'est une belle définition du travail historique. Alors, le coup de foudre que l'écrivain et reporter Joseph Kessel a pour l'Afghanistan date de 1956. C'est un moment où il réalise, avec Pierre Schoendoerfer, qui est un cinéaste militaire qui revient d'Indochine, un beau film étrange qui s'appelle La passe du diable. Et de là aussi, cette fresque grandiose, épique, Les Cavaliers, paru en 1967. Vous me disiez, Emmanuel Tixier-Duménil, que c'était pour vous le plus beau livre du monde.
Incontestablement le plus beau livre du monde. Alors, en écoutant Joseph Kessel, c'est aussi le discours de ces années 1960, et notamment cette idée que l'Afghanistan est une sorte de Moyen-Âge permanent, et on retrouve
alors,
là...
Qu'en dit la médiéviste, ça?
Alors, la médiéviste adorerait que le Moyen-Âge soit permanent, mais bon, on retrouve les clichés orientalistes d'un Occident qui seul aurait une histoire, et de ces mondes, et notamment très souvent du monde de l'islam, qui, lui, serait totalement bloqué. C'est une vision qui conforte à la fois les identitaires européens, hein, qui considèrent que, précisément, l'islam n'a pas d'histoire, et les fondamentalistes musulmans, qui adoreraient se référer au temps du prophète, au temps des origines. Or, précisément, on sait qu'en histoire, le temps des origines, ça n'existe pas. Il existe toujours quelque chose auparavant.
Les Cavaliers, ce grand roman paru en 1967, je l'ai dit, on disait que c'était le livre de chevet du roi d'Afghanistan, Zahir Shah, et on peut se demander, Thierry Sarmant, si c'est pas finalement l'âge d'or de l'Afghanistan.
C'est l'âge d'or, parce que Zahir Shah était lui-même à la fois un dynaste pachtoun, et en même temps c'est un monsieur qui lisait Le Monde tous les matins. Oui. Donc il était très occidentalisé. Et je me demandais d'ailleurs s'il y avait une nostalgie, parce que... Les Américains, qui sont, par leur histoire anti-monarchiste, n'ont pas voulu remettre Zahir Shah sur le trône après la chute des talibans. Et je m'étais demandé s'il y avait une nostalgie de cette période royale, et notamment du règne de Zahir.
Gilles de Ronsoro.
En fait, difficile de vous répondre, mais il y a un élément factuel, c'est que la Loya Jirga, c'est-à-dire la Grande Assemblée réunie pour mettre au point la nouvelle constitution, en fait, était constituée majoritairement de gens qui souhaitaient le retour de la royauté. Donc ça, c'est un élément factuel, et c'est véritablement des pressions américaines très très physiques et très directes qui ont amené les gens, en fait, finalement, à refuser la royauté. Mais, en même temps, il n'y a pas de légitimité si forte que ça de la royauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystique de la royauté. Voilà. Mais oui, il y avait des nostalgiques, clairement.
Bon, et pour vous, Kessel, Les Cavaliers, est-ce que comme lecture ethnographique, ça tient toujours? Parce que là, pour le coup, ça parle de tribus, ça parle de pouvoir guerrier, ça parle de compétition.
Alors, il y a des choses qui tiennent. C'est-à-dire, c'est la dynamique de compétition extrêmement forte entre les notables locaux. Ça, c'est véritablement un trait qu'on retrouve dans entre les groupes armés, qu'on retrouve. L'Afghanistan est un pays extrêmement compétitif. Les enfants se battent, les adultes s'interposent rarement. Les relations entre frères, entre cousins, tout est très compétitif en Afghanistan. C'est peut-être ce que les Américains auraient dû comprendre plus vite, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui, là, est véritablement un modèle culturel de compétition, de réussite personnelle. C'est extrêmement fort. Et je pense que Kessel a bien saisi ça. Et moi, à titre très personnel, ce que j'ai aimé dans l'Afghanistan, c'est qu'on pouvait, alors c'est le seul terrain de guerre, on pouvait voyager tout seul. On se louait un cheval ou ce qu'on voulait, ou on marchait, selon les finances du moment. Et on pouvait être tout seul et on était responsable de soi et de ses actes. Et c'est une société qui, pour ça, moi, m'a beaucoup plu. C'est-à-dire qu'on pouvait être, en fait, faire des choses, prendre des risques. Et les gens pensaient que, finalement, on était responsable de soi. Donc, il y avait quelque chose que je trouvais fascinant là-dedans.
Entre l'Afghanistan et la France, il y a une histoire intellectuelle et savante. En 1922... était créée la DAFA, la délégation archéologique française en Afghanistan, qui va fêter malheureusement son centenaire dans de tristes conditions. Et au-delà de la préservation du patrimoine archéologique, la DAFA a entrepris un inventaire systématique, une cartographie de 1300 sites archéologiques. Enfin, il faut prendre la mesure, Emmanuel Tixier-Duménil, de ce que c'est aussi que ce pays, de cette richesse. Et alors, si c'est pas le Moyen-Âge continué, c'est quand même une histoire qui continue depuis le Moyen-Âge.
C'est une histoire qui continue depuis le Moyen-Âge et qui est initiée bien avant le Moyen-Âge, précisément, quand on parlait de ces royaumes gréco-bouddhiques. Et je voulais quand même souligner, ce qui est absolument fascinant, c'est que l'Afghanistan, c'est le lieu de la rencontre entre les statues grecques, l'art des statues hellénistiques, et le bouddhisme. Ce sont les premières représentations humaines du Bouddha au 1er siècle de notre ère, celles qu'on retrouve partout, y compris maintenant au fin fond de l'Orne. Ces représentations du Bouddha, elles naissent en Afghanistan. Donc on est effectivement au cœur d'une très très riche histoire culturelle. Gilles de Ronsoro insistait sur cette compétition en Afghanistan, mais aussi sur ce rapport qu'on peut garder avec le texte de Kessel et avec ce monde tribal qu'il dépeint. Mais c'est vrai que c'est aussi un réservoir de guerriers depuis tout le temps. C'est l'endroit où on va chercher les guerriers pour aller envahir l'Inde. Je pense notamment à l'ouvrage de Gabriel Martinez-Gros sur la brève histoire des empires. Et peut-être que dominer l'Afghanistan n'a pas grand intérêt, mais y chercher des troupes, ça, depuis la Bactriane et depuis Alexandre le Grand, c'est important.
Gilles de Ronsoro.
Alors, peut-être que ce qu'a changé la guerre depuis 78-79, c'est que ce qu'on appelait les ethnies martiales, pour reprendre les catégories britanniques, en fait, sont plus seuls à combattre. C'est-à-dire que tout le monde combat. Ça a beaucoup changé la hiérarchie entre ethnies. Massoud est un très bon exemple de ça. Massoud, c'est un panchiri. C'est pas quelqu'un issu d'une région qui est connue pour ses guerriers. Or, Massoud a été un modèle de guerrier islamique. Un modèle de guerrier du djihad. Donc, un extrême contrôle de soi, une extrême politesse, un génie stratégique aussi, qui s'est vu à la fois contre les soviétiques et contre les talibans. Donc, effectivement, ça a été des modèles différents. Alors, de façon peut-être un peu moins glorieuse, des gens comme Dostum chez les Ouzbeks, chez les Hazaras et tout. Donc, en fait, ce que la guerre a créé, c'est une prise d'armes par des ethnies qui, jusque-là, étaient considérées comme non-guerrières. Et ça fait partie du problème actuel de l'Afghanistan, c'est quelle hiérarchie ethnique on va avoir maintenant. La victoire des talibans nous apporte un très bon début de réponse.
Alors évidemment, ce n'est pas comme expert qu'on vous a invité, mais comme historien, Gilles de Ronsoro, une dernière question pourtant. Vous avez dans votre livre l'idée, oui, qu'au fond, désenchanter le terrain, comme vous dites, c'est renoncer à chercher en Afghanistan une identité radicalement autre, mais y voir le miroir déformant de nos propres pratiques de gouvernement. Vous les citez d'ailleurs à la fin de votre livre. Moindre autonomie des champs sociaux, obsession de la mesure et de la rationalisation, captation des biens publics par les intérêts privés. Donc ça veut dire que aller en Afghanistan, c'est pas retrouver ou rencontrer une société autre, mais c'est se retrouver soi-même comme autre. Alors qu'est-ce qui va se passer puisque la guerre, la grande guerre de démocratisation a été perdu, vous l'aviez annoncé et avec élégance, vous ne vous enorgueillissez pas de cette prophétie. Mais en revanche, maintenant c'est notre démocratie qui s'en trouve mise en crise.
Oui, il y a peut-être quelque chose qui me frappe plus que le reste en Afghanistan aujourd'hui, c'est notre incapacité, malgré l'échec, à tirer des leçons de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, essentiellement, on va décrire ce que vous avez très bien dénoncé ici, on va décrire l'Afghanistan comme un pays exotique. Et c'est déjà en route dans les médias, partout. Voilà, on a été vaincu parce que c'est le cimetière des empires, parce que les montagnes sont très hautes, parce que... Et on va pas regarder, on va pas se mettre en cause. Et je pense que c'est probablement le côté tragique. Notre distance à l'autre est en train de s'accroître. Plus les gens nous ressemblent, et plus on les décrit comme distants. Et bon, ça correspond à des dynamiques internes évidentes dans nos propres sociétés. La mise à distance des classes sociales, des groupes sociaux.
Bah ça va vite, hein. Merci Gilles de Ronsoro, merci les amis. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier, réalisée par Xavier Pestudia. Il y avait aujourd'hui à la technique Sybille Clamins. La semaine prochaine, nous parlerons de l'empaquetage de l'Arc de Triomphe avec l'historienne Laure Murat.